5-7, Saguenay, midi pile.
À midi 24, les Jeux olympiques s'en viennent. D'ailleurs, vous entendez quelques fois sur nos ondes, ce sera le cas cet après-midi dans le retour, Philippe Gagnon, qui sera notre analyste pour les olympiques lorsque ce sera en cours sur l'ensemble de la programmation. Mais là, il y a un éléphant dans la pièce.
Moderne, en plus. Hein? Oui. C'est une réalité moderne des choses.
L'espionnage chinois. Et là, plus ça va, plus on voit les directives qui sont données soit par des pays à leurs équipes sportives ou même des réseaux de télévision auprès de leurs journalistes de faire soit très, très, très attention à leur communication, à leur utilisation des réseaux Wi-Fi, des réseaux publics. Il y a des procédures à suivre. Et il y en a même qui vont plus loin en disant « Pas d'appareil électronique, point, lorsque vous allez aux Jeux de Pékin. » Par crainte d'espionnage, de suivi, de hackage. Pour quelle raison exactement?
Les Chinois ont cette mauvaise réputation-là. Est-ce que c'est un stéréotype ou une réputation confirmée? Je ne saurais trop vous dire, mais apparemment que l'espionnage industriel, les Chinois sont bien forts là-dessus. Apparence que... Et là, tu dis, on s'en va avec des Jeux olympiques où on a des athlètes de partout dans le monde qui, en théorie, amènent avec eux leur téléphone cellulaire qui est bourré de données personnelles, mais est-ce que c'est des données qui peuvent compromettre des ci et des ça? Je vais te dire une chose, je trouve que l'histoire est intéressante. Est-ce que c'est une balune qui est juste assez gonflée, trop gonflée ou qui mérite d'être dégonflée?
On va rejoindre Éric Parent, qui est président directeur général d'Eva Technologies, expert en cybersécurité. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, très bien.
Dites-moi, est-ce que ça va trop loin?
Bien, je peux vous dire que dans mon métier, quand on accompagne des entreprises d'envergure internationale, ça fait partie des critères de voyagement. Alors moi, j'écris des protocoles pour des dirigeants, pour leur expliquer comment ils vont se comporter, si on veut, dans le monde numérique, quand ils sont en transit, quand ils vont dans des pays comme ça. Faut comprendre que dans un téléphone, il peut y avoir bien des choses. Hein. Il peut y avoir des contacts, des numéros de téléphone, et puis la corrélation de toutes ces informations-là, ça finit par faire une belle source de données. Et puis la Chine n'a pas un problème de ressources humaines. Alors, il manque pas de gens pour faire l'analyse de ces choses-là. Fait qu'ils ont une philosophie plus de dire on va capturer tout ce qu'on peut capturer, et puis après ça, on va déterminer la valeur de cette information-là. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec?
Un président d'entreprise aérienne qui travaille à l'international, qui va en Chine, OK, son téléphone cellulaire contient peut-être des données qui sont sensibles. Même chose pour des grandes entreprises, des grandes industries. Mais là, on parle d'athlètes qui s'en vont passer du temps là-bas puis veulent rester en contact avec leur famille d'une certaine façon. Je disais, entre autres, qu'il y a un athlète ou un entraîneur du Pays-Bas qui va amener son PlayStation pour pouvoir jouer puis pendant les temps morts, puis il pourra même pas, là.
Ben, qui pourrait pas, ça, c'est un peu poussé, là, parce que le PlayStation, il peut bien l'amener. C'est sûr que le protocole qu'on mettrait en place, ce serait qu'il change son mot de passe avant de partir, puis qu'il le rechange en revenant. Okay. Mais le PlayStation, en théorie, on pourrait le considérer comme compromis une fois qu'il revient. Il pourrait avoir une modification au logiciel ou même à l'équipement physique. Alors, si on veut vraiment être sécuritaire, ça dépend qui qu'on est, hein. Comme monsieur, madame, tout le monde retourne chez eux après, puis que son PlayStation l'espionne, c'est peut-être pas une catastrophe. Mais c'est pour ça qu'on dit de détruire l'équipement quand ça revient. C'est ça qu'on fait.
Si vous dites le mot détruire, ça va jusqu'à là, c'est-à-dire que tu peux envoyer que soit des athlètes, des journalistes ou des gens d'affaires qui vont en Chine et des gens sérieux comme vous, parce que vous êtes spécialisés là-dedans, vont même dans certains cas recommander de dire vous revenez de votre mission d'affaires ou vous revenez de votre tournoi de je sais pas trop quoi, ben votre téléphone ou votre portable, on le scrappe pour éviter toute contamination possible, c'est ça?
Oui, ça dépend évidemment du pays puis du niveau de risque. Parce qu'il y a certains portables qui sont plus difficiles à modifier. Il y a des portables qui c'est très facile. À l'intérieur du portable, il y a une petite carte très petite qui est mise pour l'accès Wi-Fi. Et puis, parce que l'accès Wi-Fi va varier d'un pays à l'autre, les règlements de sans fil vont changer. Fait que quand c'est un modèle comme ça, ça veut dire que c'est facile de faire un swap out, de changer ce petit module-là pour maintenant faire de l'espionnage sur le portable. Et puis, la seule différence qu'il va avoir, c'est peut-être le portable va peser quelques grammes de plus ou de moins. Très difficile à détecter. Alors, si c'est un modèle comme ça, ben c'est sûr qu'on va se poser des questions. T'sais. Mais la réalité, c'est qu'il y a un niveau de risque qui est très élevé, mais la seule façon d'être sûr, c'est de ne plus utiliser l'équipement. Fait qu'on dit détruire, ça, c'est chaque personne va bien décider qu'est-ce qu'ils veulent faire avec. Ils peuvent le donner à un ami, mais c'est si on pense qu'il est espionné, c'est peut-être pas un bon geste.
Pour les athlètes eux-mêmes, quel serait l'intérêt de la Chine d'espionner et d'aller chercher des données sur leur téléphone?
Ben, vu qu'on parle de données potentiellement médicales, les derniers tests qui ont été faits, il y a toutes sortes de stratégies probablement qui peuvent tourner autour des Olympiques. Okay. Mais aussi, ces gens-là sont quand même subventionnés, c'est pas le bon, commandités plutôt, par des gens qui ont de l'argent et qui représentent des grandes entreprises. Alors, dans leur carnet d'adresse, dans leur courriel, rien qu'avoir les numéros de téléphone et faire la corrélation entre des numéros de téléphone mobiles et les noms des gens, c'est déjà de l'information qui peut être intéressante d'un point de vue espionnage. Alors, toute l'information est bonne, finalement, à récolter pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec.
Au lieu de faire comme certains pays puis d'interdire totalement les appareils électroniques, vous parliez de compromis tantôt. Est-ce que ce serait pas d'avoir un téléphone, disons, bas de gamme, acheté juste avant de partir, qui contient pratiquement rien dedans, juste pour garder contact avec la famille?
Ben, si c'est vraiment le cas, la réalité, c'est que les téléphones les moins intelligents vont nous permettre de communiquer, de faire un appel. Et puis, évidemment, cet appel-là peut quand même être écouté. Ça passe par un réseau qui est contrôlé par le gouvernement de la Chine. Alors, s'ils veulent l'écouter, ils peuvent bien l'écouter. Mais il n'y aura pas nécessairement de valeur d'écouter ce genre de conversation-là quand on appelle notre famille. Le vrai problème que je vois dans les articles qui ont ressorti pour les athlètes, c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes là-dedans qui utilisent les réseaux sociaux durant les activités olympiques. Alors, ça, il faut traiter ça d'une autre façon. Ils vont avoir besoin d'avoir une technologie pour quand même se brancher sur Instagram ou sur les différents services des réseaux sociaux.
À quel point, puis là, je ne sais pas si on est dans la science-fiction, je me lance, à quel point les Chinois sont forts en espionnage électronique?
Ils sont très forts. C'est juste que ça revient quand même à la pertinence de la chose. Est-ce qu'ils vont récolter quelque chose vraiment de pertinent sur vous ou sur moi? Ça peut être plus complexe que ça, là. C'est-à-dire de rattacher le fil entre tous ces morceaux d'informations-là pour aller en chercher un gain. Mais la Chine, dans leur culture, c'est une culture qui est très forte, disons, dans ce milieu-là. Là.
Parce qu'on parle souvent dans le domaine industriel de la contrefaçon, puis de voler des recettes industrielles, puis d'essayer de ça. Maintenant, dans le domaine de l'information, en temps de COVID ou en temps d'entraînement olympique, est-ce que c'est le même principe d'aller chercher les méthodes de tel pays, les informations sur tel pays, pour pouvoir améliorer leur propre performance dans le futur au niveau des athlètes chinois?
Ben, si on y va avec les rumeurs des dernières années, ils ont déjà eu des athlètes qui sont censés avoir au moins 16 ans, qu'on n'est pas sûr s'ils ont peut-être même 14 ans, parce qu'ils ont falsifié peut-être des documents. Car il faut comprendre que si le pays veut mettre l'effort pour gagner ou pour aller chercher un gain X, Y ou Z, ils ont la mécanique pour le faire. Ils ont le talent et ils ont les ressources.
Hey, j'ai une question. Lorsqu'on change de téléphone chez une boutique de téléphonie, souvent pour ne pas perdre ses photos, ses tunes, pis ça, on installe deux téléphones à côté de l'autre, puis on les clone, là, vous savez ce que je veux dire, là, puis on est bien content de ça parce qu'on n'a pas besoin de tout recommencer. Mais est-ce que la Chine serait capable, exemple, avec une méthode élargie, de cloner tout ce qu'il y a de téléphone qui rentre sur son territoire du réseau olympique?
Ben, ça se fait pas nécessairement aussi simple que ça, mais il y a des trucs quand même c'est techniquement plus compliqué, mais il y a des choses qui sont similaires qui peuvent être faites. Par exemple, quand votre téléphone est branché à votre réseau ici, là, au Canada, que ce soit Bell, Telus, Rogers, n'importe quelle des compagnies, s'il y a une mise à jour de qu'est-ce qu'on appelle le firmware, qui est vraiment le système d'exploitation là, en arrière de système d'exploitation que nous, on voit là, quand on met à jour notre téléphone à Apple, par exemple. Il y a quelque chose à l'intérieur du téléphone qui lui permet de communiquer avec tous ces différents réseaux-là. Et puis ça peut se mettre à jour. Et puis on peut insérer du code malicieux à l'intérieur de ça. Alors quand notre téléphone est sur le réseau, un réseau inconnu, si on veut dire comme ça, un réseau qu'on ne fait pas nécessairement confiance, il pourrait trouver une façon de pousser une mise à jour sur nos téléphones et puis après ça, faire de l'espionnage beaucoup plus direct sur le téléphone. Fait que c'est des scénarios qui sont très, très, très complexe, c'est pas nécessairement facile à faire. Mais ça revient avec les ressources qu'on a. Si on a des ressources illimitées, bien, on est capable de faire des choses vraiment impressionnantes.
Monsieur Parent, avant qu'on se quitte, un jour on pourra recommencer à voyager. Il y a quand même des gens qui pourraient être appelés à voyager en Chine. Si vous avez un conseil à donner à des gens qui occupent peut-être des postes importants, qui nous écoutent, qui s'en vont voyager en Chine un jour, est-ce que vous donneriez le même conseil pour les appareils électroniques?
Oui, même moi, si je vais dans des pays de ce genre-là, j'apporte pas mon équipement normal, là, mon équipement de tous les jours. Et puis, les services que je vais utiliser, je vais les connaître avant de partir. Je vais m'avoir assuré d'avoir changé les mots de passe et puis d'avoir activé la fameuse authentification forte, là, où que ça nous demande un deuxième mot de passe là, pour prouver qu'on est vraiment la bonne personne. Et puis, après ça, quand on revient, bien, on va refaire la même exercice. On va changer nos mots de passe. Il n'y a pas de sécurité absolue quand même. Si on se branche quelque chose, il y a quand même quelqu'un qui peut regarder qu'est-ce qu'on est en train de faire à ce moment-là. Alors, on va limiter aussi les choses comme se brancher à notre compte de banque et puis des choses de ce genre-là. Fait qu'il y a des petites règles comme ça qu'on peut suivre qui ne sont pas nécessairement trop compliquées, mais qui vont quand même nous protéger un peu.
Monsieur Parent, merci beaucoup.
Bonjour.
Bienvenue. Bonne journée.
Éric Parent, PDG d'Eva Technologies, expert en cybersécurité. Puis tantôt, tu sais, il explorait le point sur les réseaux sociaux. Instagram, tu sais, les athlètes veulent pas partir avec un téléphone flip là-bas juste pour parler à leur famille, là.
Bienvenue dans le nouveau monde, mais les jeunes athlètes de 18, 20 ans, ça fonctionne par texto, ça fonctionne par les réseaux sociaux, puis ils sont modernes.
L'athlète des Pays-Bas, Jutta Leerdam,
oui,
a 2,1 millions d'abonnés à son compte Instagram. Si tu veux aller voir, tu vas comprendre pourquoi.
Oui, ben, elle a l'air extrêmement talentueuse.
Ben oui, aussi, là, mais tu sais, son image est importante pour
babe,
les commanditaires.
C'est incroyable.
Fait que tu sais, les commanditaires, eux autres, lui donnent de l'argent pendant 4 ans dans le but d'avoir une exposition majeure lors des Jeux olympiques, qu'elle se prenne en photo au site de compétition, que les gens puissent la suivre pendant ce temps-là, que la marque soit vraiment répandue. Je me souviens pas de son commanditaire, mais mettons que c'est New Balance. Là.
Ben, elle est commanditée par Nike, de ce que bon, je vois, entre autres.
Ben là, c'est Nike. Là. Fait que le petit crochet, là, ils veulent que ces pantalons de sport avec le petit crochet soient vus au site de compétition. Si elle n'a pas cet outil-là pour le faire, pour les médias sociaux, c'est sûr que le commanditaire sera probablement pas intéressé à lui donner le même montant. C'est là que ça devient payant pour ces athlètes-là.
Mais vois-tu, je la suivais pas là, jusqu'à aujourd'hui. Je pense que je vais la suivre.
Tu me diras, ça a réussi à publier pendant les Jeux.
je surveille ça.
Parce qu'écoute, son association sportive des Pays-Bas a carrément dit que les appareils électroniques, ce sera à la maison, à moins qu'ils réussissent à trouver un compromis d'ici là.